Mais puis-je vous poser une autre question? Pourquoi ce thème de ce genre-là en Tchétchénie est devenu si principal pour la presse occidentale?
Mais parce que c'est une question de liberté individuelle.
Non, ce n'est pas une question de la liberté personnelle, c'est une question de perversité personnelle, voilà.
Bonjour à tous, c'est une élection jouée d'avance. En Russie, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 18 ans, est de nouveau candidat à sa succession. Sa victoire à l'élection présidentielle, dont c'est le premier tour aujourd'hui, ne fait aucun doute. Tous ses opposants ont été écartés. Ce statu quo, savamment organisé par le clan Poutine, s'appuie sur un régime autoritaire où les contestations politiques et sociétales, où l'affirmation de soi, de son identité, se paye très cher. L'exemple le plus marquant est le sort réservé aux minorités sexuelles. Il y a presque un an, Novaya Gazeta, un média russe d'opposition, révélait qu'une véritable chasse aux homosexuels était menée en Tchétchénie. Prison secrète, torture, enlèvement, assassinat, les ONG parlent de plusieurs dizaines de victimes. Selim Basayev, un chanteur tchétchène, est devenu l'un des visages de cette répression. Ce jeune homosexuel de 25 ans est porté disparu depuis août dernier. Il aurait été torturé à mort. Devant le tollé international, le gouvernement russe a bien lancé une enquête sans résultat, alors qu'en Tchétchénie, le très redouté président Ramzan Kadyrov assure qu'il ne s'agit là que de mensonges. Non sans difficulté, notre envoyé spécial permanent en Russie, Claude Bruyot, a enquêté sur le sujet à Saint-Pétersbourg, à Moscou et à Grozny, en Tchétchénie. Son reportage est comme un révélateur, une photographie de la société russe ou comment conservatisme social et religieux sont instrumentalisés par le pouvoir politique.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Nous sommes dans le quartier de l'Arbat, au centre de Moscou, au lieu de la culture d'opposition dès les premières années du bolchevisme et aujourd'hui encore à l'avant-garde de la contestation. Nous avons rendez-vous dans un bar de l'Arbat où tous les mois la communauté LGBT organise des concerts pour ses militants et sympathisants. Assise à une table au centre de la salle, nous attend Marina, 59 ans, une chanteuse venue spécialement de Saint-Pétersbourg.
À 13 ans, je me suis retrouvée dans la maison des fous. Mais je ne le savais pas, on me disait que j'étais à l'hôpital, j'étais très fatiguée, je ne travaillais plus à l'école. Je me suis retrouvée à l'hôpital, mais j'ai compris que ce n'était pas l'hôpital. J'étais choquée. Je pensais voir des chambres blanches, mais en fait, je voyais des dortoirs avec au minimum 80 enfants. Et on me disait, ça va ma fille. C'était la maison des fous là où j'étais. J'étais à l'hôpital, mais on l'appelait la maison des fous. Après, j'ai vu qu'on avait posé un diagnostic, comme quoi j'avais le potentiel pour être lesbienne, mais sans réalisation. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, la réalisation. Et je ne voulais pas savoir, je ne comprenais pas, mais c'était la formulation. Je ne savais pas que c'était une maladie. Je ne savais rien. J'étais une enfant. Je ne pensais pas à la réalisation, j'étais amoureuse. J'étais amoureuse d'une femme, d'une jeune fille, et c'est tout. Mais je ne pensais pas à une relation intime. J'avais 13 ans.
Ландыш, ландыш белоснежный, роза наленький, каждый говорил ей нежно, моя маленькая, ликом чистая иконка и ним пеночка.
На высокоскоростном поезде «Сапсан» с пересадкой на станции «Чудово» в скоростной поезд «Ласточка». Всю необходимую информацию вы можете получить на официальном сайте УАО РЖД и в ваших справочных информациях.
À Saint-Pétersbourg, avant d'être un professeur de sociologie reconnu, Jakob Jilinski était avocat au temps de l'Union soviétique. Il se souvient de l'époque où les homosexuels étaient poursuivis et bien souvent condamnés.
советский режим, и это тоже режим с очень жестким.
Sous le régime soviétique, les relations homosexuelles étaient officiellement interdites.
Как говорила, это как анекдот, но это была правда, действительность, когда
à l'époque de la perestroïka, on a commencé à discuter plus ouvertement des relations hétérosexuelles et homosexuelles.
Между мужчиной и женщиной.
Mais je me souviens d'une fois, pendant une émission à la télévision soviétique, une participante a dit clairement « En Union soviétique, le sexe n'existe pas ». Il y avait une loi, et notamment un article de cette loi, qui punissait à l'époque les relations homosexuelles. Et durant ces années-là, j'étais avocat. Et j'avais un client qui était homosexuel. Et simplement à cause de ça, il a vraiment été condamné à 5 années de prison. Après la perestroïka, la vraie liberté a commencé à s'installer en Russie. Et c'était vraiment le meilleur temps, car les gens étaient libres. L'esprit de la liberté soufflait sur la société.
На примере, что тогда было.
Вы хотите мир, и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность.
D'après un sondage publié fin 2017 par le Centre Levada, un organisme indépendant en Russie, il y a 20 ans, un tiers des Russes ne condamnait pas les relations homosexuelles. Il ne serait plus aujourd'hui que 17%. Tous les autres soit réprouvent ou rejettent carrément, soit expriment de l'inquiétude face à la présence d'une minorité homosexuelle visible. C'est le cas par exemple de Yulia, 37 ans, moscovite, enseignante de formation et mère d'un enfant, mariée, de religion orthodoxe, mais peu pratiquante.
Je pense qu'en général, la société russe, c'est un peu traditionnel. La plupart des gens ne peuvent pas que ses enfants voient les relations entre deux gens de même sexe. Il ne faut pas propagander. Si l'homme est né comme ça, avec telle orientation, c'est sa problème. Ce n'est pas la raison pour être fier.
Vous avez peur que votre enfant, en voyant ça, ait envie d'essayer de devenir plus tard homosexuel ? C'est ça, la peur, la crainte ?
J'espère que c'est pas possible, parce que je vois que mon fils, c'est moujik, déjà. Mais bien sûr, je préfère qu'il trouverait la femme et avoir la famille normale avec les enfants. Bien sûr, je préfère comme ça, parce que je crois que la nature, elle pense faire deux sexes, masculin et féminin, pour continuer l'espèce humaine.
Si votre fils vous pose des questions sur l'homosexualité, les homosexuels, en demandant qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous pensez pouvoir ou devoir répondre ?
Il n'a pas demandé. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de ressources d'informations modernes, l'Internet, YouTube, etc. Et plus souvent, les enfants ne demandent pas les parents à propos de ce thème. Ils conversaient entre eux, mais si mon fils me demande qu'est-ce que je pense de ce problème, bien sûr, je vais essayer d'expliquer que ce n'est pas normalement. Parce que les minorités de société devenues majorité un jour.
Vous avez peur de ça ?
Pas peur, mais je ne veux pas.
One, two, three. One, two, three, four.
Vous sortez d'un cours de danse. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre à Rudolf Nureyev ? Par exemple, un exemple ce matin, qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Vous êtes formidable.
Son ! Pas de chat. Nous sommes maintenant au théâtre du Bolchoï pour la présentation aux médias du ballet-spectacle consacré à la vie de Rudolf Nureyev. À l'origine, c'est le metteur en scène Kirill Serebrennikov qui aurait dû présenter ce spectacle. Mais depuis l'été 2017, il est assigné à résidence, officiellement pour avoir détourné des fonds publics. Le spectacle avait été une première fois annulé, motif invoqué à l'époque, un manque de préparation. En réalité, les scènes osées représentant Nureyev nu sur scène auraient déplu aux autorités. Les scènes en question ont été maintenues, mais les danseurs portent désormais des collants de couleur chair, censés donc caractériser cette nudité.
Je m'appelle Katerina Novikova, je suis l'attachée de presse du Bolchoï pendant les dernières 17 ans. Je viens de famille des gens de théâtre. Et je suis demi-juif. Ça, c'est qui je suis. Et là, aujourd'hui, je vais parler à ce titre personnel. Je n'allais pas tenir la parole du Bolchoï. Non, je vais parler de ma part, Katia Novikova. Moi-même, je suis très tolérant. Je pense pas que vous pouvez pas juger les gens par rapport ni à leur sangue ou leur croire ou leur préférence sexuelle. Et alors, pour moi, la chose primordiale dans n'importe quelle société, c'est la tolérance, qu'il fallait habiter ensemble et que n'importe quelle morale nous avons nous-mêmes, nous ne pouvons pas imposer notre morale personnelle à tous les gens qui nous entourent. Mais le problème de la société où j'habite, c'est que pendant des années, les gens pourraient pas dire qu'ils sont homosexuels. Dans mon enfance, c'était vraiment interdit par la loi, ce que je trouve absolument inacceptable, bien sûr. Après, par exemple, Tchaïkovski, lui, il habitait dans la société où publiquement, il pourrait pas dire qu'il est homosexuel. Alors toute sa vie, lui, il était obligé de le cacher. Alors maintenant, je ne sais pas s'il a voulu de parler de ce sujet. Peut-être pas. Peut-être pour lui, c'était une thème qu'il voulait pas discuter public. Alors je ne sais pas si nous, maintenant, devons de sa part de discuter ça trop public. Et je pense que lui, comme les autres grands artistes, il a créé ses œuvres. Et là, c'est une autre question. À quel point les œuvres que les gens créent et leur énergie créative doit être liée publiquement à l'autre énergie sexuelle. Quand je même pense à Rudolf Nureyev ou aux autres artistes russes, pour moi, leur sexualité n'est pas une question qui m'intéresse trop. Et en même temps, c'est évident que quand tu fais un ballet sur la vie de Nureyev, c'est inséparable. La seule chose, je trouve, dans l'art qui doit être jugée, c'est la mesure du talent. C'est ça qui doit être important.
Est-ce que quand vous réfléchissez un peu à l'avenir, vous vous dites, vous avez beaucoup parlé de tolérance par rapport aux minorités homosexuelles, que la société russe peut encore évoluer vers davantage de tolérance? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça?
Je sais pas, mais je vois que nous avons beaucoup de plus de tolérance et déjà je suis très heureux que par rapport à la loi, tu ne seras pas dans la prison par rapport à tes préférences homosexuelles. En Russie, on discute pas trop publiquement toutes ces questions. Et en même temps, je vois pas que les gens homosexuels sont des problèmes pour avoir les grandes positions dans notre société. Ils ne sont pas obligés de cacher leur point de vue. Ils gèrent les écoles, ils gèrent les institutions pour les enfants, ils sont dans les politiques, partout. Je ne pense pas que dans notre société, c'est dans la vie réelle. C'est un grand problème. Par contre, les gens qui sont rigides, surtout peut-être l'Église orthodoxe, des fois, je trouve que eux, ils devraient être plus tolérants envers ce sujet. Et moi, surtout, je pense que les gens qui s'occupent de l'esprit de ce pays, eux, ils devraient pas provoquer les émotions comme ça. Moi, j'ai peur toujours des gens qui nous disent, moi, je connais, ça doit être comme ci et comme ça. Tu connais pas. Tu n'es pas le Dieu. Tu peux pas juger les autres en partant de tes idées à toi.
Il y a quelques mois, Ilia a été piégé en allant à un rendez-vous donné par un ami. Il raconte avoir été agressé en pleine forêt par des hommes en uniforme militaire.
J'ai vraiment eu peur, parce que je savais ce qui se passerait ensuite. Je savais ce qu'ils allaient faire. Ils m'entraînaient hors de la voiture. On commençait à me battre et à m'humilier. Ils disaient que j'étais un PD, un gay, et que de telles personnes ne devraient pas exister en Tchétchénie.
Il y a tout juste un an, le quotidien indépendant moscovite Novaya Gazeta, sur la base de témoignages directs, a dévoilé le sort inhumain réservé à bien des homosexuels en Tchétchénie. Cette enquête, qui évoquait des arrestations, tortures, emprisonnements, crimes d'honneur, a provoqué une vague de protestations dans les pays occidentaux, dont certains, comme la France, ont accueilli plusieurs de ces victimes. Depuis, la rédaction entière de Novaya Gazeta a subi pressions et menaces en provenance de Tchétchénie.
Yelena Milashina, correspondante de Novaya Gazeta, Moscou.
Yelena Milashina, correspondante de Novaya Gazeta, Moscou. Après la publication de l'enquête sur les guerres en Tchétchénie, ce n'est pas seulement moi, mais tout le collectif de Novaya Gazeta qui a été menacé. Depuis, il y a eu des investigations sur ces menaces, mais nous n'en connaissons pas les résultats. Nous avons parlé de l'existence des prisons secrètes qui sont en Tchétchénie depuis des années et des années.
Без всяких предвинений и обвинений. По разным мотивам. И в этих тюрьмах были помещены люди, которые были задержаны по подозрению в гомосексуальной ориентации. Они были сегрегированы в этих секретных тюрьмах и находились на самом бесправном положении среди всех задержанных. Там были задержаны
за криминальные преступления, mais aussi pour tous les autres délinquants, criminels, trafiquants de drogue, des militants salafistes présumés également.
За подозрение в экстремизме. За салафизм, это религиозное течение, да, то есть за по любым мотивам. Да,
mais depuis le début de l'année 2017, nous savons que ce sont des homosexuels qui sont donc aussi détenus dans ces prisons et dans des conditions très difficiles.
Вот незаконно опять-таки обвиняемые. И они были.
Car en plus, ils figurent tout en bas de la hiérarchie des prisonniers. Ils font l'objet d'une ségrégation à l'intérieur même de l'univers carcéral.
В сторону этих людей.
Est-ce qu'elle a rencontré Ramzan Kadyrov récemment?
Vous встречались лично с Рамзан Кадыровым?
Нет, Рамзан Кадыров отказывался.
Non, jamais. Il refuse de parler avec les journalistes de Novaya Gazeta.
Est-ce qu'elle n'a pas peur de retourner en Tchétchénie?
Dès que j'ai su que mon ami Titef, le responsable de Mémorial en Tchétchénie, a été arrêté, nous avons décidé de retourner sur place tout à fait délibérément. Nous aurons des entretiens avec les autorités tchétchènes, et donc, s'il y a des problèmes avec notre sécurité, ce sera la responsabilité des autorités tchétchènes de garantir notre sécurité sur place. Ce ne sera pas notre problème. Ce sera le leur.
Mai
2017,
Emmanuel Macron, dans un de ses meetings de campagne, c'était à Bercy, avait parlé de camps pour homosexuels en Tchétchénie. Serait-il normal à vos yeux qu'il aborde le sujet avec Vladimir Poutine cet après-midi?
Il peut aborder sans doute ce sujet comme tout autre sujet.
Alexandre Orlov, ambassadeur de la Russie en France.
Et je crois que Poutine, président Poutine va lui répondre que c'est une information complètement fausse, qu'on n'a rien trouvé de ces camps en Tchétchénie.
Mais il ne demande pas, le président Poutine, à ce qu'il y ait une enquête pour vérifier ses dires, qui sont quand même ceux de Human Rights Watch, qui sont ceux d'un grand journal d'opposition russe, Novaya Gazeta, qui parle de torture, d'hommes électrocutés.
Ça a été déjà fait. Dès que cette information, qui n'est pas tout à fait neuve, est apparue dans ce Novaya Gazeta, nous-mêmes, nous avons fait cette enquête et on n'a rien trouvé. Rien.
Quelques jours auparavant, Seb Dance,
I'm a gay man.
Je suis gay.
Eurodéputé britannique, s'adresse aux homosexuels tchétchènes persécutés.
I don't know if there's anybody here.
Je ne sais pas si quelqu'un est en train de regarder en Tchétchénie ou en Russie. Vous n'êtes pas le problème si vous êtes LGBTI. Vous n'êtes pas une maladie. Ce sont les personnes qui vous font ça qui sont le problème. Et c'est cette organisation, la communauté internationale, qui sera là pour vous défendre.
Interception sur France Inter.
Alexandre Artemiev, responsable de médias à l'Amnesty International à Moscou. Cette situation est difficile et bien sûr ce qui s'est passé avec les gays en Tchétchénie, c'est quelque chose horrible dont nous n'avons pas osé même en penser. Parce que bien sûr il y avait des informations sur les arrestations illicites et la détention des extrémistes présumés par les autorités tchétchènes, mais l'importance de ces violations nous échappait. Et maintenant, bien sûr grâce à Nova Gazette, nous voyons combien de gens sont touchés par les représailles tchétchènes. Et il faut dire merci beaucoup aux pays qui ont pris des homosexuels de la Tchétchénie, qui l'ont donné de l'asile, parce que c'est 106 personnes, selon LGBTnet, qui se sont échappées de la Russie. Et donc, c'est grâce à la société civile dans les pays de l'Ouest que les gouvernements de l'Ouest ont pris cette décision de donner l'asile à ces gens.
Comment expliquer que la société russe en général aujourd'hui soit aussi négative vis-à-vis de l'homosexualité ? L'homosexualité n'est pas interdite en Russie, c'est la propagande de l'homosexualité qui est interdite.
C'est bien sûr une chose plutôt artificielle, parce que moi je pense que l'homophobie de la société russe est tout à fait exagérée, et elle est exagérée par la presse, exagéré par les médias étrangers et exagéré par les autorités, pour les raisons tout à fait différentes, mais c'est devenu instrumentalisé par l'autorité aussi.
Quel est l'intérêt du pouvoir russe ?
Le pouvoir, le Kremlin, ils construisent l'image de la société siégée par l'Ouest, et donc bien sûr les homosexuels, ils sont les agents de l'Ouest. Et ce sont des agents qui détruisent les valeurs traditionnelles et tout cela, parce que tout le discours sur les valeurs traditionnelles, il n'y a que 10 ans, quelque chose comme ça. Parce que pendant les années 2000, ce que préoccupait le Kremlin, ce que préoccupait les esprits des Russes, c'était comment s'enrichir, comment utiliser les bénéfices du pétrole. Dès que nous avons eu des problèmes dans l'économie, bien sûr, il avait fallu d'avoir quelque chose d'autre. Et donc, nous sommes arrivés à l'idée de la société assiégée, de la société, disons, pure, de la société orthodoxe qui est menacée par beaucoup d'ennemis, par les agents étrangers, parmi les ingénieurs, par les Américains, par les homosexuels, par les sectes, par les témoins de Jéhovah, parce qu'ils sont aussi considérés comme des extrémistes. Tandis que pendant 25 ans après la chute de l'Union soviétique, personne ne se questionnait sur l'homosexualité, sur les témoins de Jéhovah, sur beaucoup de choses. Et maintenant, c'était fait pour consolider la situation interne qui était menacée par la chute de niveau économique, par la chute des prix de pétrole, par le soulèvement spirituel de l'an 2011-2012.
Nous sommes maintenant en Tchétchénie, république musulmane du Caucase Nord, au pays du tout-puissant Ramzan Kadyrov, précisément dans la capitale Grozny, ville totalement reconstruite après deux guerres d'indépendance avortées. C'est là et dans ces régions périphériques de Grozny que les journalistes moscovites de Novaya Gazeta, les premiers, situent les agressions, enlèvements, meurtres et crimes d'honneur dont ont été victimes il y a un an les homosexuels tchétchènes. Nous arrivons près de la maison d'Ibrahim Arsanov, un imam francophone réputé proche de Kadyrov.
On est dans un bâtiment de l'école privée des langues de Cheikh Denis Arsanov, de confrérie Naqshbandiya, confrérie religieuse mondiale. Notre famille constitue l'un des remparts de la nation des Tchétchènes et des Ingouches. Tout va pas très bien. Il y a des problèmes, il y a des contraintes du point de vue justice sociale. Mais si on parle du pouvoir actuel, c'est ma vision sincère, on a un pouvoir point de fer, mais c'est un mal nécessaire. Un mal nécessaire, autrement, la République n'existait en principe non plus. Si on parle de tout ce qui ne va pas dans ce domaine-là, injustice sociale ou la liberté, c'est vrai que au niveau de l'exécution du pouvoir, les fonctionnaires, les ministres, les sous-ministres et tous les autres, ils prennent une extra initiative pour renforcer le pouvoir. Ils essaient de devenir plus poignée de fer que le pouvoir lui-même. Par exemple, le pouvoir républicain, ils veulent éliminer ou minimaliser tous les maladies sociales comme narcomanie, alcoolisme ou bien mal comportement, tout ça. Oui, c'est vrai, il faut le faire. Mais au niveau d'exécution, il y a de grands abus. Les principes sont justes, mais l'exécution est incorrecte.
Parmi les problématiques, et notamment les libertés individuelles, vous n'avez pas parlé des homosexuels.
Là aussi, c'était une pure provocation. Ce problème des gens, des minorités que vous avez nommés, là aussi...
Homosexuels, c'est ça ?
Là aussi, c'était une pure provocation. On ne sait pas même d'où ça provient. Parce que chez nous, ce problème ne se posait jamais.
C'est Novaya Gazeta, journal russe, moscovite, qui le premier a parlé de ça.
Non, je dis pas que les journalistes sont provocateurs. Non, c'est pas ça. Mais ici, en Tchétchénie, il y a de temps en temps des éléments de la guerre de l'information qui nous étonnent vraiment. On ne sait même pas d'où ça provient. Une thème pour cette semaine, l'autre semaine, une autre thématique se lève. C'est bizarre.
Votre point de vue, votre position personnelle, quand on évoque spécifiquement les libertés individuelles, et celle-là en l'occurrence, celle d'être soi-même, finalement, l'homosexualité n'est pas interdite en Russie. Elle n'est pas interdite. Non mais, même si ça n'existe pas ici, elle n'est pas interdite. Ici, c'est aussi la Russie. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus par rapport à ça? Vous ne voulez pas en parler?
Non. Cet thème n'a jamais été notre agenda. Jamais, pour l'histoire.
Et vous pensez que c'est pas vrai, tout ce qui a été dit, c'est pas vrai?
À part cette provocation informationnelle, on n'a jamais eu ce problème-là. Mais puis-je vous poser une autre question?
Oui.
Pourquoi ce thème de ce genre-là en Tchétchénie est devenu si principal, si majeur pour la presse occidentale? Peut-être il y a d'autres choses qui sont très importantes, mais pourquoi? Vous savez très bien que...
Mais parce que c'est une question de liberté individuelle.
Non, c'est une question de perversité. C'est pas une question de liberté individuelle, c'est une question de perversité. C'est une question de perversité, voilà. C'est ça notre différence conceptuelle. Pour nous, ce problème-là, avec ces gens dont vous parlez, ce n'est pas une question de la liberté personnelle, c'est une question de perversité personnelle, voilà.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я рад вас видеть. Добро пожаловать. Приятные гости.
Батир Султан a 67 ans. Il est musulman, pratiquant, de rite soufi. Il nous accueille dans la plus pure tradition de l'hospitalité tchétchène. Le repas est préparé par sa dernière épouse, seule en cuisine pendant plus de 2 heures. Avant de passer à table, Batir Sultan nous invite dans son salon. C'est là qu'il se détend après ses longues journées de travail, en écoutant, dit-il, les chansons de ma jeunesse. Après le repas, à l'écart de sa femme et de ses enfants, Batir Sultan accepte de raconter son histoire et surtout de dire ce qu'il pense de la situation en Tchétchénie pour les minorités homosexuelles.
Je m'appelle Sultan Batir. Je suis né au Kazakhstan, là où mes parents ont été déportés depuis la Tchétchénie en 1944. J'y habitais, je suis allé à l'école là-bas jusqu'en 1961. Et là, nous sommes revenus à Grozny quand on nous a donné l'autorisation de rentrer dans notre patrie.
Qu'est-ce que vous pensez de la question des minorités homosexuelles?
C'est une maladie. Une maladie. Je considère ça vraiment comme une maladie mentale ou une maladie physique. Quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois en Tchétchénie, j'ai ressenti comme une forme de honte. Pour moi, comme pour tous les Tchétchènes, je suis sûr, c'est inacceptable. Si vraiment il y en a qui sont malades, il faut leur donner des médicaments pour les aider à se soigner.
S'il y avait dans votre famille quelqu'un qui devient homosexuel, est-ce qu'il irait jusqu'à provoquer ce qu'on appelle entre guillemets le crime d'honneur, où il demanderait à cette personne de partir de sa famille?
Mais il y a deux aspects. Personnellement, Je ne pense pas à un crime d'honneur. Si j'avais quelqu'un comme ça dans ma famille, il faudrait lui donner un traitement médical. Il faudrait l'aider à se débarrasser de cette maladie. Après, d'un point de vue général, les emprisonnements et les tortures en Tchétchénie, je pense que ce n'est pas vrai. Mais je pense que Kadyrov veut que ces gens partent et quittent la Tchétchénie. L'homosexualité est étrangère à la culture tchétchène. Les hommes en Tchétchénie vivent autrement. Je ne peux pas comprendre ces gens-là. Je crois vraiment que Kadyrov serait content si ces gens-là partaient pour se faire soigner. Ce qu'a écrit Novaya Gazeta, c'était exagéré.
L'homosexualité n'est pas interdite en Russie, donc elle n'est pas interdite en Tchétchénie non plus. Et pourtant, il aimerait qu'il n'y ait pas d'homosexuels, alors que ce n'est pas interdit.
Bien sûr, mais moi, je suis tchétchène. Je suis fier. Et puis, il y a le message de Dieu. Encore une fois, Dieu fait partie de l'homme, le procréateur. Et si l'homme n'est plus le procréateur, ça contredit les lois de Dieu. Mais je prends un autre exemple. Nous, Tchétchènes, nous avons une tradition. Nous prenons souvent un verre et nous buvons pour montrer que nous sommes saints. Moi, je suis sportif. Et avec un homosexuel, je préfère ne jamais boire comme ça.
Nous n'avons pas ce genre de personnes ici.
Ramzan Kadyrov, président de la République tchétchène.
Nous n'avons pas de gays. S'il y en a, emmenez-les avec vous au Canada. Que Dieu ait pitié de nous, qu'ils partent loin de nous, pour purifier notre sang. S'il y en a ici, prenez-les.
Mais n'êtes-vous pas inquiet quand vous lisez ces témoignages de jeunes hommes qui disent qu'ils ont été torturés pendant des jours? Cela ne vous inquiète-t-il pas du point de vue de l'ordre et la loi?
Ce sont des démons. Il faut s'en débarrasser. Ce ne sont pas des hommes. Qu'ils soient damnés pour ce dont ils nous accusent. Ils devront en répondre devant le Tout-Puissant.
Si les membres de ma famille apprenaient que je suis homosexuel, ils me tueraient, sans la moindre hésitation. Parce que c'est une honte pour nous, les Tchétchènes. Une honte qui ne peut être lavée que dans le sang.
Céline Bakayev, 25 ans, star de la pop musique tchétchène, homosexuelle, portée disparue depuis plusieurs mois.
Alexei Malashenko, un chercheur de l'Institut de dialogue des civilisations.
Dans les cercles familiaux traditionnels en Tchétchénie, on ne peut pas admettre qu'il y ait un membre d'une famille qui soit homosexuel. C'est impossible par rapport à la religion, par rapport aux traditions.
Si ça existe, il se cache. On ne discutait jamais ça. Là-bas, c'est pas un grand problème pour la société en Tchétchénie. C'est pas Moscou, c'est pas la Russie, c'est pas l'Europe, c'est tout à fait une autre chose.
Quand on parle de crime d'honneur, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble réaliste aujourd'hui? C'est-à-dire que des familles elles-mêmes, si elles apprennent qu'un de leurs membres est homosexuel, vont le supprimer?
Supprimer? Non. Tuer, c'est trop. Mais en même temps, je crois que ce sera, disons, un exil géographique, psychologique, etc., etc. Puisque pour la famille de Tchétchénie, reconnaître que leur fils est homosexuel, oui, leur fils, c'est trop.
C'est un déshonneur?
Bien sûr, aucun doute, aucun doute, c'est un déshonneur.
Et en l'occurrence, Ramzan Kadyrov est le gardien des traditions dans son pays. Et il va effectivement défendre ça. C'est sa démarche intellectuelle.
bien sûr, mais je dois vous dire que Ramzan Kadyrov, il utilise bien sûr l'islam et en général la tradition est caucasienne et islamique pour garder ses positions, pour garder son autorité. Et quand on parle de la société de Tchétchénie, disons, c'est un mélange des traditions et des aspirations pour être au plus moderne. C'est, disons, une chose assez extraordinaire. Et je parlais avec des jeunes gens en Tchétchénie, à Grozny, et j'ai reçu, disons, une réponse très, très inattendue. On m'a dit que nous devenons de plus en plus musulmans et européens en même temps.
C'est une contradiction.
Mais pas pour eux.
Comment on peut expliquer ça ?
Mais ils pensent que c'est possible pendant des guerres. En Tchétchénie, les jeunes femmes portaient des mini-jupes et ça ne crée aucun problème.
C'est le retour en arrière, en quelque sorte, après les deux guerres.
C'est pas le retour, puisque pour Ramzan Kadyrov, comme je viens de dire, la tradition, c'est l'instrument. Cet instrument est utilisé de toute façon parfait. Mais ils sont déjà fatigués.
Interception sur France Inter.
Nous avons quitté la Tchétchénie, retour à Moscou, précisément au sud de la capitale russe, dans le sous-sol d'un grand immeuble des années 60, une porte en fer avec une inscription en anglais « Black Sheep », le mouton noir. C'est là que se retrouvent, un dimanche après-midi sur deux, les chrétiens LGBT.
Je m'appelle Ivan, j'habite Moscou, j'ai 42 ans, je suis professeur de langue étrangère à une université économique en Moscou. Je viens ici parce que c'est ma groupe de chrétiens LGBT. Je viens ici pour créer l'espace de sécurité pour moi-même, pour les autres, pour participer en vie des autres, pour prier, pour parler avec mes amis et avec des gens nouveaux qui viennent à notre groupe.
Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui quand on est homosexuel dans une ville comme Moscou, en Russie ? Mm-hmm. Il faut être toujours caché, pas se montrer. Vous avez un compagnon, il est avec vous, comment ça se passe ?
C'est trop difficile pour expliquer en français.
I'll switch to English.
Donc je vais passer en anglais. Le plus difficile, c'est que tu ne peux pas être naturel. Tu ne peux pas te tenir par la main dans la rue. Tu dois faire attention, même avec des amis qui ne devraient pas savoir que tu es LGBT. Et à chaque fois que j'invite une nouvelle personne à rejoindre le groupe, eh bien, je dois parler avec elle individuellement pour être certain que c'est sans danger de l'inviter.
Ça veut dire qu'il faut toujours faire attention.
Exactement.
Parce que sinon, il y a des risques. Quel genre de risque ?
Pour
certaines personnes, c'est le risque de perdre son travail. Ça, c'est le plus commun. Mais l'autre risque, ce sont les violences physiques par des homophobes qui se trouveraient dans le quartier, par exemple.
Vous avez déjà eu la crainte vous-même d'être attaqué physiquement ?
Jamais. Non, jamais.
Mais vous connaissez des gens qui ont vécu ça ?
Oui, I know two people.
Je connais deux personnes, une qui a été agressée de nombreuses fois, et puis un autre participant qui est présent aujourd'hui. Quand ses collègues de travail d'une petite imprimerie dans laquelle il travaillait se sont aperçus qu'il était trans, ils ont commencé à l'ignorer complètement. Et par exemple, quand il rentrait dans la cuisine collective pour prendre un thé, tout le monde partait en silence pour l'éviter. Ils le boycottaient.
Vous êtes chrétien. Qu'est-ce que vous pensez de la position de l'Église orthodoxe russe, position officielle par rapport à la question des minorités homosexuelles en Russie?
I believe that the
Je pense que l'attitude de la hiérarchie de l'Église russe est inhumaine. Je crois que c'est en contradiction avec l'amour et la miséricorde de Dieu. Et c'est aussi très hypocrite, parce qu'il est de notoriété publique que beaucoup de hauts dignitaires de l'Église sont eux-mêmes homosexuels. Et certains d'entre eux abusent d'ailleurs de leur position.
Je crois que la France, la communauté européenne doit continuer à mettre la pression. Nous ne pouvons pas espérer que la situation serait améliorée très vite. Sinon, je crois que les tendances traditionnelles en Russie continueront à être très fortes.
Les défenseurs de la loi de 2013 contre la propagande homosexuelle au Conseil de la Fédération ou à la Douma n'ont pas souhaité se rendre disponibles pour répondre à nos questions. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans toutes les grandes villes de Russie, dans les institutions publiques et privées, la minorité homosexuelle est représentée. Sacha est psychologue, il travaille avec le mouvement LGBT Russie.
Ce que je peux dire, c'est que à tous les niveaux de la société russe, de bas en haut de l'échelle sociale, y compris dans l'élite politique, il y a des homosexuels partout. Et certains même sont influents. Ceux-là d'ailleurs ne sont pas stigmatisés, car ils n'affichent pas leurs orientations. Que ce soit dans le cinéma, le théâtre, ou la musique, il y a aussi beaucoup d'homosexuels dans le monde culturel russe.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont des responsabilités politiques, notamment, qui sont homosexuels, qui vont jusqu'à se cacher, c'est-à-dire avoir des couvertures, être mariés avec une femme s'ils sont homosexuels ou avec un homme si elles sont lesbiennes? Est-ce que ça existe?
En Russie, oui, ça existe. Et je peux même dire que ça existait aussi à l'époque soviétique. Parce que quelqu'un qui était homosexuel, il épousait une femme avec qui il vivait officiellement, et parfois même avec des enfants.
Mais
dans le même temps, il pouvait vivre assez librement avec un compagnon, mais toujours en bénéficiant d'une couverture. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux niveaux. Tout d'abord, il y a une minorité d'homosexuels qui ont fait leur coming out. C'est surtout possible pour des gens qui sont connus et respectés. Mais c'est vraiment une petite minorité. Ensuite, il y a tous les autres, homosexuels, transgenres, etc., qui vivent dans leur milieu, à proximité d'un environnement qui connaît plus ou moins leur situation, et l'acceptent, tant qu'il n'y a pas d'affichage ostensible de leurs différences. Les problèmes importants surviennent surtout sur leur lieu de travail, où on va retrouver des manifestations de discrimination envers les homosexuels, pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi.
Je m'appelle Mikhaïl Rochin, je suis chercheur de l'Institut d'études orientales à l'Académie de sciences de la Russie à Moscou. Si nous considérons les cas comme la Tchétchénie, ça je peux dire à mon avis que c'est une société pas seulement musulmane, mais aussi très archaïque. Archaïque, donc il y a les traditions qui vraiment sont contre ce type de relations. Les cas existent et nous connaissons. Nous ne connaissons pas peut-être assez bien avec les lesbiennes, mais c'est sûr qu'il y a les hommes homosexuels. Et même, comme nous connaissons, il y avait des cas de torture, des prisons. Nous savons que les cas d'isolement et les cas de torture cela existait, cela est prouvé. Mais je crois quand même c'est un cas qui ne donne pas l'image à toute la Russie. Parce que c'est vraiment, il y a les cas seulement dans les républiques qui jusqu'ici ont un système social archaïque.
L'impact de la pression internationale, justement après les exactions, les atteintes aux droits de l'homme qui ont été constatées en Tchétchénie l'année dernière, est-ce que, selon vous, ça a joué un rôle dans la stabilisation aujourd'hui de la question et du problème, ou pas du tout ?
Absolument, vous avez raison, cela a joué un rôle de stabilisateur, parce que vraiment, Kadyrov, qui a commencé cette campagne, Kadyrov et son entourage, il a dû stopper tout ça, peut-être pas d'après ses propres convictions, mais aussi avec l'aide du Kremlin. Je crois quand même, oui, il a stoppé. On a laissé aux gens homosexuels partir de la Tchétchénie, parfois à la Russie ou même à l'étranger, et donc la situation, je crois, est plus stable beaucoup maintenant en Tchétchénie de ce point de vue.
Chercheurs, psychologues, sociologues se questionnent encore sur l'avenir des relations dans la Russie d'aujourd'hui entre une minorité homosexuelle qui se bat pour exister sans avoir à se cacher et une société façonnée par les tourments et pas encore prête à chasser tous ses démons, d'autant moins prête à faire la paix avec elle-même que des voix au perché semblent lui indiquer encore une fois, comme le rappelle Marina, le chemin le plus difficile.
Je ne sais pas. Mais si les gens ont une telle agressivité envers nous, c'est bien qu'il y a un problème. Et le problème principal, c'est cette symbiose entre l'État et l'Église. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça dans notre pays. Peut-être qu'il y aura un miracle et que la situation va s'améliorer. Il ne faut plus que les gens nous condamnent. La tolérance doit régner.
La répression des homosexuels en Russie, c'était un reportage de Claude Bruyot, réalisation Violaine Ballet et Michel Soulier, assistant Stéphane Combe, mixage de Jean-Philippe Jeanne. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.